Bonsoir à tous. Alors, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser le micro, donc s'il y a des problèmes de volume, surtout n'hésitez pas à nous faire un petit signe qu'on règle ces petits soucis techniques pour que ce soit confortable pour tout le monde. Voilà. Alors, j'en profite de prendre la parole en introduction pour remercier déjà Dominique Manotti d'avoir accepté notre invitation. Et puis aussi pour remercier Lecture et Rencontre qui fait un travail formidable à nos côtés tous les jours, toute l'année. Et de préciser que c'est bien grâce à eux en partie qu'on peut organiser ce genre de rencontre. Donc n'hésitez pas à les retrouver, à discuter avec eux parce que c'est à la fois un soutien financier, certes, mais c'est aussi une collaboration tout au long de l'année pour échanger autour des lectures et organiser ces temps à la bibliothèque qui sont vraiment des moments privilégiés. Voilà, je vais passer... Alors, Catherine et Nathalie qui ont beaucoup travaillé à cette rencontre avec Dominique Manotti vont surtout, elles, animer cet instant. Vous allez voir, elles sont vraiment plongées dans la littérature de Dominique Manotti. Et j'espère qu'elles, toutes les trois, et moi aussi, on va pouvoir vous communiquer cette découverte de l'œuvre de Madame Manotti. Voilà, je passe la parole à Catherine qui va vous faire une petite présentation.
Tout de suite, je voulais vous remercier de m'avoir invitée.
Merci à vous. On va faire une petite introduction et une présentation de Madame Manotti. Dominique Manotti, vous êtes née à Paris en 1942. Vous êtes historienne de formation et de métier. Vous avez enseigné de nombreuses années en fac à l'université de Vincennes-Saint-Denis, l'histoire économique et contemporaine, ce que l'on sent dans vos romans. Comme vous dites, vous êtes romancière sur le tard, vous êtes venue au roman sur le tard, et vous rajoutez, pas par vocation, plutôt par désespoir, phrase que vous commenterez sans doute à un moment donné de la rencontre, et le roman noir vous est apparu assez vite comme la forme la plus appropriée pour raconter les transformations que subit notre société actuelle, française, et y dénoncer ce que l'on appelle, ce que j'appellerais la corruption des cols blancs, dans tous vos romans, quasiment. Vous êtes en cela une véritable chroniqueuse des temps modernes, au moyen de fictions passionnantes, documentées à la perfection, ce qui renvoie à votre travail d'historienne également. Vos romans sont de véritables radiographies de notre société. Vous arrivez donc en littérature avec un premier roman, Sombre Sentier, paru en 1995, qui relate, donc toujours, on est dans le roman policier, roman noir, par le biais d'une enquête policière, la situation des ouvriers turcs dans la confection, leur grève qui a eu lieu dans le sentier à Paris en 1980, grève auquel vous avez participé en tant que militante syndicale et qui a abouti à la régularisation de ces ouvriers sans papier. Je crois que vous y tenez à ce dernier combat. Avec ce premier roman, en 1995, vous remportez le prix Sang d'encre, qui sera suivi par d'autres prix, dont celui du Grand Prix de littérature policière en 2011, pour votre titre « L'honorable société », coécrit avec Doha, mais de toute façon, on reviendra sur « L'honorable société » durant la rencontre.
Alors, Dominique Manotti, vous avez été militante politique et syndicale à la CFDT jusqu'au milieu des années 80.
Là, on ne vous entend pas.
Ah, pardon. Si. Bon, c'est bon. L'écriture est venue par la suite, donc au travers de romans noirs. Tous vos romans, sans exception, traitent des rouages du pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques, leurs liens facilités par l'argent, le trafic de drogue et la prostitution. Nous souhaiterions, dans un premier temps, que vous puissiez évoquer votre passé de militante syndicale et ce qu'il a apporté à votre travail d'écriture par la suite. Lors de la préparation de cette rencontre, ce qui m'a, pour moi, paru primordial, c'est la question du témoignage. Votre passé de militante, c'était un véritable engagement, un don de soi au service d'une cause et d'un combat. Quels sont, pour vous, les messages que vous pourriez transmettre aux nouvelles générations?
Rien que ça.
Voilà, rien que ça. Alors, assez vite, puisque c'est la première partie de la question. Et ensuite, effectivement, il y a le passage à l'écriture. Donc, comme l'a dit Catherine, pas par vocation, mais plutôt par désespoir. Pourriez-vous nous commenter cette phrase ? Et pourquoi avoir fait le choix de la fiction plutôt que celui du documentaire ou de l'écriture journalistique ? C'est la première question.
Bon, il y en a effectivement beaucoup. Alors, si vous voulez, voilà, moi, j'appartiens à... Bon, je suis née donc en 42. J'appartiens à une génération qui a... Enfin, mon petit bout de génération, si vous voulez, a vécu très, très fortement la fin de la guerre d'Algérie. Je crois que ça a marqué très fort cette génération-là. Et en gros, si vous voulez, l'atmosphère dans laquelle j'ai vécu ces années 60, c'était une atmosphère... On a du mal aujourd'hui soit à l'imaginer, soit à s'en souvenir. C'était une période, si vous voulez, où le monde bougeait beaucoup, bougeait énormément. Et pour toute une partie de ma génération, il y avait des espoirs vraiment très très grands. On avait l'impression qu'on avait la possibilité d'influer sur le sort du monde. Voilà, c'est dit de façon très emphatique, mais en gros c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait un peu partout des mouvements de libération nationale qui se dessinaient, qui se mettaient en œuvre. Il y a eu ensuite des coups d'arrêt très forts et très violents. Mais dans les années 60, c'était plutôt la montée de ce mouvement, sous des formes très diverses. Ça allait depuis les poussées démocratiques au Chili, par exemple, jusqu'à des mouvements beaucoup plus contestataires, violents. Mais il y avait un espèce de mouvement d'ensemble qui allait vers ces changements profonds de société. Du côté de l'Union soviétique, qui avait été totalement glacier, la glaciation pendant longtemps, c'était la période Khrouchtchev, il y avait l'amorce de ce qu'on a cru être le début d'un changement important dans la façon de voir le monde des communistes. Et il y avait un certain nombre de luttes qui se menaient en France même. Donc c'était, si vous voulez, une période très stimulante en France, et puis pas seulement en France, il y avait aussi toute une série de luttes, par exemple en Italie, qui pour moi a été un pays très important. Donc c'était très stimulant sur le plan militant, sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, c'était l'époque où il y avait vraiment énormément de grandes revues, de grands débats. Ça bouillonnait vraiment. Voilà, c'était l'ambiance des années 60. Ça s'est prolongé après 68, dans les années 70. Alors, pendant ces années-là, pendant les années 60, moi, j'ai participé à tous ces mouvements sur un plan plutôt politique. Puis, bon, bah, j'ai commencé à enseigner en 65. Et puis, il y a eu 68, évidemment, qui a été un peu le prolongement européen de ce mouvement de libération nationale dans le reste du monde. Mouvement qui a touché à peu près tous les pays européens, plus ou moins, mais qui a touché à peu près tous les pays européens. Et dans les années 70, moi j'ai fait beaucoup de syndicalisme. J'étais responsable syndicale, mais si vous voulez, responsable syndicale dans ce qu'on appelle l'interprofessionnel, c'est-à-dire pas responsable syndicale enseignante, mais responsable syndicale dans une union départementale interprofessionnelle. Bon, ce qui m'a mise en contact avec énormément de gens extrêmement différents. Alors, je ne sais pas si j'ai un message à transmettre, mais si j'en avais un, c'est celui d'aller y voir, quoi. d'aller le voir à peu près partout, de se déplacer, d'être, de rencontrer des gens. Moi, j'ai l'habitude, si vous voulez, de dire, ce qui m'a appris à écrire, c'est de savoir écouter. C'est pas un message très... Mais je trouve, si vous voulez, que c'est quelque chose qui se fait très très peu en France. Finalement, j'ai eu, à travers cette expérience syndicale, la chance extraordinaire de rencontrer des tas de milieux sociaux différents, des tas de gens extrêmement différents. Et quand je vois aujourd'hui les élites françaises, je me dis que ça leur manque singulièrement. Singulièrement. J'ai lu récemment, il n'y a pas très longtemps, que Henri Guénaud avait dit que avec son salaire de 6000 euros par mois, c'était quand même pas grand chose. Bon. ça leur manque. Et c'est pas, si vous voulez, on est dans un pays où c'est pas si facile que ça de se promener dans la société, d'avoir des expériences différentes, de rencontrer des gens. On vit dans un pays où on est quand même très 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 cloisonné. Je pense, alors, pour rester dans un plan strictement littéraire, si vous voulez, les Américains, les écrivains américains ont des formes d'expérience sociale tout à fait différentes des écrivains français dans l'ensemble. Et ça explique le caractère de leur littérature. C'est une littérature beaucoup plus ouverte sur la société que la littérature française, qui est infiniment cloisonnée socialement. Bon. Donc, voilà, mon expérience, elle a été celle-là. Et en tant que prof de fac, si vous voulez, oui, c'est vrai, j'ai animé un certain nombre de grèves ouvrières, ce qui n'est pas très fréquent. Voilà, et là, évidemment, je m'en souviens dans mes romans, c'est évident que c'est de cette expérience-là que j'ai tiré ce que j'ai écrit, c'était évident. Voilà, donc moi je dirais que mon message, ce serait celui-là, c'est il faut se promener, il faut rencontrer des gens, il faut voir d'autres milieux, il faut avoir une grande, grande ouverture sociale. Il faut casser les habitudes et le cloisonnement extrême de la société dans laquelle on vit. Alors ça, c'est la première question. La deuxième, c'est le désespoir. Eh bien, c'est assez clair, parce que si vous voulez, il y a eu donc ces très grands espoirs dans les années 60 et 70. Et donc, quand Mitterrand a été élu en 80, hein, j'avais 42 ans, quelque chose comme ça. Et... bon, je me suis dit, je vais certainement choquer beaucoup de monde, peut-être choquer beaucoup de monde, pour moi cette élection a été le signe que c'était fichu, et que c'était fichu pour extrêmement longtemps. Donc, je me suis dit, il y a un moment où il faut faire les bilans, quoi, t'as 42 ans quand même, il y a un moment où il faut faire le bilan, Quelle chance tu as que de voir ce pourquoi tu t'es battu pendant 20 ans. Chance nulle. À partir de ce moment-là, bon, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je suis restée enseignante. J'ai toujours enseigné. Hein. J'ai jamais eu de détachement syndical, j'ai toujours enseigné. Mais pour moi, c'était facile parce que j'étais prof en fac. Prof en fac, ça a quand même, c'est pas du tout la même chose que prof en collège ou en école primaire. C'est une charge tout à fait différente. Et bon. Mais en tout cas, j'ai toujours enseigné, donc j'ai continué mon métier d'enseignante, ça, il n'y avait pas de problème. Mais il s'est passé quelque chose, si vous voulez, de très intéressant, enfin, dont je me rends compte quand même que c'est assez intéressant, c'est que d'abandonner l'engagement syndical profond que j'avais, j'ai perdu tout intérêt pour l'histoire. Je suis allée expliquer ça la semaine dernière à Blois pour son journée des historiens. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais en train de faire, je suis donc une spécialiste du 19e siècle, de l'économie au 19e, et j'étais en train de faire, dans la fin des années 70, tout un travail sur la perception par le patronat français de la crise économique de 1884. Voilà, c'était très précis. Vous savez, les universitaires travaillent toujours sur des trucs très précis, donc c'était très précis. Il y a une admirable enquête qui a été faite par le Conseil municipal de Paris en 1884, auprès de plus de 600 patrons, et cette enquête n'avait jamais été dépouillée et jamais été utilisée. Donc je travaillais là-dessus. Et dans ma pratique syndicale, ça m'était extrêmement utile. Ça m'était extrêmement utile parce que ça me donnait une espèce de profondeur dans la compréhension du patronat que je rencontrais. Il venait pas de nulle part, c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui étaient dans une continuité dont ils n'étaient pas nécessairement conscients. Mais moi, je comprenais beaucoup mieux leur réaction, leur position et dans les négociations. À l'époque, on était engagé dans des négociations, donc à la suite de la bataille dans le Sentier, on était engagé dans des négociations pour refaire la convention collective de la confection. Et c'était vraiment une aide. Dès que j'avais une demi-journée, je replongeais dans mes notes, je continuais mon travail d'historienne. J'étais passionnée. Bon. Une fois que je n'ai plus participé à cette bataille, qui d'ailleurs était terminée celle-là, mais que je n'ai plus eu de rencontre avec le patronat, je me suis dit très sincèrement que ce que pouvait penser le patronat français en 1884 m'était totalement indifférent. Bon, alors, c'était assez difficile, assez pénible, si vous voulez, de se retrouver après 20 ans de très haut, enfin, où on était tout le temps vraiment tendu, passionné, avec de l'espoir, etc. C'était assez pénible de se retrouver sans passion. Je faisais mon métier, il n'y avait pas de problème. De toute façon, j'ai toujours aimé enseigner. Donc j'enseignais, ça c'est pas la question. Mais j'avais plus de passion. Bon, et ça a duré comme ça pendant quelques temps. Pendant même un temps relativement long. Une dizaine d'années, pour être tout à fait sincère. Un peu moins d'une dizaine d'années. Et pendant ce temps-là, j'ai redécouvert la littérature. Évidemment, dans les 20 ans qui avaient précédé, entre mes engagements, mon métier et l'enseignement, j'avais pas beaucoup de temps à moi et j'ai pas beaucoup lu, j'ai même pas lu du tout pendant 20 ans. J'ai redécouvert la littérature dans cette situation d'entre-deux. Et ça a été, sous une certaine façon, un choc, si vous voulez. C'est-à-dire que, enfin, le choc, il a même eu lieu, je le sais très bien, je sais à partir de quel ouvrage précis ça s'est passé. pardon. Attends, je vais boire un petit coup. Ah, voilà. Le choc s'est passé à la lecture tout à fait inopinée d'un roman de Elroy qui s'appelle L.A. Confidential. J'avais pas entendu parler d'Elroy avant, j'avais lu aucune critique, rien du tout, je le connaissais absolument pas. Et j'avais lu très peu de temps avant un ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Mike Davis et qui a écrit City of Quartz, qui est une analyse sociologique de Los Angeles, Et c'est un très beau livre, le livre de Davis. C'est un beau, beau livre de sociologie, une belle étude de Los Angeles. Mais sincèrement, franchement, il ne peut pas s'aligner avec LA Confidential. LA Confidential m'a fait vivre à Los Angeles. Voilà, c'est ça la très très grosse différence. C'est pas une étude de sociologie qui fait faire ça, c'est pas un document d'histoire qui fait faire ça. La littérature vous fait vivre ce qu'elle raconte. Et quand vous vivez les bons romans, évidemment, il y a aussi des mauvais romans, ça c'est évident, on parle que des très bons. Mais c'était un véritable choc, c'est-à-dire j'avais là cette expérience de vivre à Los Angeles dans les années 50 et j'avais une connaissance, tout d'un coup, je l'acquérais, une connaissance de la société américaine incomparable à tout ce que j'avais pu lire auparavant. Donc, si vous voulez, ça a été un véritable choc. J'ai fini LA Confidential, j'ai lu tout ce que avait été traduit d'Elroy jusque-là. C'est pas tout aussi génial, bon. Mais enfin, j'ai tout lu parce qu'il y a cette espèce d'obsession d'historienne à rien laisser passer. Et comme j'ai eu fini la dernière ligne du dernier roman traduit à l'époque, c'est-à-dire ça s'était arrêté à White Jazz, j'ai fermé tout ça et je me suis dit, si on arrive à écrire des choses comme ça, ça vaut le coup d'essayer. Et donc, voilà, j'ai commencé, dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Voilà. Et donc, par désespoir, parce que j'avais jamais envisagé, je n'avais jamais auparavant envisagé d'écrire des romans. Franchement, c'était pas du tout dans mon ADN, on va dire. Pas du tout dans mon ADN.
Merci. Donc vous venez de nous dire que vous avez donc, et nous expliquer pourquoi vous avez choisi la fiction, le roman, la littérature qui fait vivre, la bonne littérature. Moi je voulais vous poser une seconde question sur la construction de vos livres. Quel est le travail, avant d'arriver au livre que l'on lit, quel est votre travail préparatoire? Parce que j'imagine que vous avez forcément un travail préparatoire. Travail d'enquête, de documentation, d'interview aussi. Moi, je me souviens vous avoir écouté lors d'une formation où vous m'aviez passionné quand vous avez raconté comment vous aviez préparé le roman Lorraine Connexion, comment vous étiez allé en Lorraine sur place au moment de. Alors, peut-être pas au moment de la grève.
Non, juste après.
Juste après, voilà, la grève des ouvriers au moment de. Et je voulais peut-être que vous nous reparliez soit avec cette, enfin peut-être avec cet exemple, mais vous, de toute façon, je pense que la méthode est la même pour tous vos romans. Voilà, comment vous travaillez, comment vous construisez vos livres, et peut-être nous faire une petite lecture de Lorraine Connexion.
Si j'y arrive.
Si vous voilà, si vous souhaitez.
je suis enrhumée, c'est pour ça que j'ai la voix qui déraille un peu. Bon. Oui, enfin, on va voir, il n'y a pas de problème. En tout cas, je m'excuse de ces variations. Alors, si vous voulez, oui, ben, en gros, je démarre sur un roman, on ne sait jamais très bien comment. À chaque fois, c'est un peu différent, si vous voulez. Vous savez, là-dessus, il n'y a absolument aucune règle générale. Chacun fait vraiment comme il a envie et comme il veut. Il n'y a pas de règles. En tout cas, en France, on considère qu'il n'y a pas de règles. Aux États-Unis, ils ont des règles assez précises qu'on enseigne dans des ateliers et qui donnent quelquefois des résultats, d'ailleurs. Hein. C'est incontestable. Mais chez nous, on considère qu'il n'y a pas de règles. Et moi, je préfère considérer qu'il n'y a pas de règles. Et donc, si vous voulez, soit par exemple... ça peut être la lecture d'un article de journal. Je lis en 2011 Je lis en 2011 que Madoff passe en procès, enfin pas son procès, mais son plaidé coupable. Et le procureur des États-Unis qui dit, et c'est relaté dans la presse, c'est le pire criminel que j'ai jamais rencontré. Bon, ça, à New York. Tout d'un coup, c'est le choc. Et je décide d'écrire Le rêve de Madoff. Pour une autre fois, Lorraine Connexion, c'est l'incendie de l'usine occupée par les ouvriers. Bon. Et quatre jours après, la police arrête quelqu'un qui est considéré comme le coupable de l'incendie, l'ouvrier marocain qui animait l'occupation. Là aussi, c'est un choc. Bon, l'ancienne syndicaliste se réveille. Les actions violentes à l'intérieur des usines, éventuellement même des sabotages, ça existe, incontestablement. Bon. L'incendie criminel par un ouvrier, c'est quelque chose d'absolument extraordinairement rare. C'est pas un mode de sabotage courant dans la classe ouvrière. Alors, je passe un coup de fil à une amie à moi qui dirige un service de contrôle dans une grande maison d'assurance, c'était AXA. Elle dirigeait à ce moment-là le service qui essaye de détecter quand il y a des fraudes à l'assurance, un service d'enquête. Bon, ils étaient quand même dans son service 180 personnes. Et je lui dis, incendie d'usine, me dit 80% le patron. Bon, donc je prends ma voiture et je pars voir là-bas et c'est le point de départ de l'enquête. Donc c'est des points de départ variables, si vous voulez. Mais en tout cas, la démarche est toujours la même, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'accroche et j'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'approfondir. J'écris un roman pour comprendre, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, alors là, je donne des temps, ça me prend à peu près tout le temps, un an et demi d'enquête, à peu près, pour un roman. En moyenne, un an et demi d'enquête, 6 mois d'écriture. Voilà, c'est à peu près le rapport. Alors, les enquêtes, elles sont évidemment extrêmement diverses, suivant les sujets et suivant la façon dont ça se présente, etc. Il y a une partie qui est une partie livresque, c'est-à-dire je lis les livres qui ont été écrits sur le sujet de sociologues, d'historiens, d'économistes, etc. Bon, ça c'est de la documentation plus livresque. Je n'ai plus du tout le temps de faire ce que font les historiens, c'est-à-dire d'aller directement aux archives. Ça prend un temps fou. Et j'ai pas le temps de le faire pour chacun des sujets sur lesquels je travaille. Donc je fais ce qu'on appelle un travail de seconde main, c'est-à-dire je prends le travail déjà fait sur la question. Puis ensuite, je multiplie les rencontres, effectivement. Alors ça peut prendre des formes d'interviews, ça peut prendre des formes de rencontres. Dans, par exemple, un sujet comme bien connu des services de police, où j'ai fait quelque chose sur la vie d'un commissariat de banlieue, dans le 93, c'était très difficile d'avoir des rapports directs avec les policiers. C'est très les policiers en activité, c'est très difficile, je pourrais vous expliquer un peu pourquoi, mais c'est très difficile. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé de faire le sujet, je suis allée systématiquement dans tous les procès où des policiers étaient soit comme partie civile, soit comme mis en cause. Et dans ces procès, on apprend une masse de choses, vraiment une masse de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très difficile d'entrer dans les salles. La justice est publique, mais alors quand il y a un procès avec des policiers mis en cause, les salles sont petites, toutes petites. Et quand les portes sont ouvertes, les salles sont déjà pleines. C'est-à-dire que, ça c'est une des formes de la solidarité policière, les policiers font la salle et la justice les laisse entrer par des portes dérobées. Donc, il faut. Si, j'ai assisté à un certain nombre de procès où même les familles des victimes n'arrivaient pas à entrer. Il faut se mettre d'accord avec des avocats et on se fait passer pour un adjoint, enfin pas un adjoint, enfin une aide, etc. Bon. Et on entre avec les avocats. Mais c'est un premier problème, il y en a d'autres, hein, mais c'est un premier problème. Parce qu'il est évident que la façon dont les salles sont composées pèse sur les tribunaux de façon très, très nette, très importante. Bon, donc, je suis allée dans les tribunaux et j'ai recueilli énormément de choses. Toutes les anecdotes qui figurent dans le roman, alors tous les personnages sont imaginaires, mais toutes les anecdotes se sont passées à un moment ou à un autre. Elles ont existé, ces anecdotes. C'est des anecdotes que j'ai reprises, ramassées dans tous ces procès. Alors, évidemment, le fait d'en faire un roman leur donne un éclairage très très particulier. Le roman a à la fois, si vous voulez, l'effet de loupe grossissante, parce qu'on prend des choses qui sont passées sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on regroupe tout dans des lieux différents, et on regroupe tout ça à la fois dans le même lieu et dans un laps de temps court. Donc évidemment, on a un effet de loupe grossissante. Mais d'un autre côté, je fais très attention à essayer. Je me demande parfois, est-ce que je vais être crédible ? Et donc parfois, j'en viens à ne pas reprendre la totalité de ce que j'ai sous la main, parce que je me dis, ça, on ne me croira pas. Par exemple, le commissariat de Saint-Denis, en 2005, il y a une purge. Hein. On limoge le commissaire. On mute la moitié de l'effectif. Sur 200 policiers, il y en avait 24 qui étaient impliqués dans des violences, vols, escroqueries diverses. Et deux réseaux de prostitution. Bon. Je ne peux pas faire ça dans le roman. J'en ai mis qu'un. Je me dis, si j'en mets deux, personne ne me croira.
J'en quatre.
Le commissaire, si vous voulez, c'était... Bon, mais il a été limogé, hein, mais c'était extraordinaire. Quand il a su pour le premier... le premier, il l'a su avant qu'il y ait l'enquête des services spécialisés. Il a su pour le premier. Bon. C'était une bague de nuit. Il les a mutés au jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas été d'une efficacité terrible. Bon, voilà. Donc, ma documentation fonctionne énormément comme ça. C'est-à-dire deux sources, si vous voulez, enfin deux grandes filières, si vous voulez. D'une part, les travaux déjà faits, ce qu'on peut trouver. Alors, ce qu'on peut trouver aussi sur Internet. Là, c'est hallucinant, si vous voulez, vraiment hallucinant. Par rapport à ce que j'ai connu comme travail de recherche, comme je faisais de l'histoire, c'est incroyable. Je donne un exemple sur Madoff. Une fois que j'ai décidé de faire un petit truc sur Madoff, une espèce de grosse nouvelle, je ne savais rien quand même. J'étais sous le coup de la colère, mais je ne savais absolument rien. J'étais sous le coup de la colère parce que je me disais, si vous voulez, que je serais extrêmement étonnée que Madoff soit le criminel le plus épouvantable qu'ait connu la ville de New York. J'étais vraiment très étonnée, surtout qu'on était en pleine crise des subprimes, que des millions d'Américains perdaient leur logement, et que Madoff n'était pour rien dans les subprimes, absolument rien. C'est-à-dire que, comme il était un homme extrêmement prudent, il s'est bien gardé de mettre le pied dans les subprimes. Bon. Donc j'étais vraiment étonnée sous le coup de la colère, mais je connaissais rien. Sur Internet, il faut savoir travailler sur Internet. C'est compliqué, parce qu'on trouve, ce qu'on trouve en premier sur Internet, c'est ce qui est le plus souvent consulté. Et c'est évidemment pas là qu'on trouve les choses vraiment intéressantes. Mais pour une affaire comme Madoff, le rapport du syndic de faillite de l'entreprise est intégralement sur Internet. Incroyable. Il y a eu trois rapports d'un autre trader qui s'appelait Markopoulos, qui pendant trois reprises a alerté l'organisme de contrôle de la bourse à New York, la SEC, qui a alerté la SEC par trois fois en disant « Madoff, c'est une escroquerie ». La SEC a classé sans suite. Les trois rapports sont sur Internet. Donc, si vous voulez, sans me déplacer, grâce à mon mari, parce que moi, je me débrouille extrêmement mal, sans me déplacer, j'ai trouvé des choses qui, il y a 20 ans ou 30 ans, j'aurais certainement trouvé, parce que ces documents sont publics, mais j'aurais été obligée d'aller aux États-Unis. Tandis que là, je les ai sur mon bureau. C'est vraiment incroyable. Bon, et donc, si vous voulez, là, on a du matériel formidable, de premier plan. Des documents, on trouve sur Internet des documents extraordinaires. Je travaille en ce moment sur le pétrole. J'ai eu un mal épouvantable. Je ne sais pas du tout si ça va bien se finir, si ça donnera un bon roman. En tout cas, c'est le roman que j'aurais eu le plus de mal à faire et qui m'aura pris le plus de temps. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très difficile de romancer. Je veux faire quelque chose sur le choc pétrolier de 73, sur la naissance du trading du pétrole et du marché libre, qui est la matrice, en fait, de la financiarisation extrême de l'économie qu'on connaît aujourd'hui. C'est là que les choses ont basculé, si vous voulez. Avant, on avait un pétrole à 2 dollars le baril. Aujourd'hui, il est à 100. Et aujourd'hui, un super tanker, 250 000 tonnes, bon, il faut multiplier par 7 pour avoir le nombre de barils. Bon, ça fait beaucoup. Un super tanker, entre le moment où il part de l'endroit où il a été chargé et le moment où il arrive à la raffinerie, il est vendu entre 30 et 40 fois. Imaginez les sommes que ça représente. Imaginez les sommes que ça représente. Ce basculement de l'hyper-financiarisation de l'économie commence à ce moment-là. Donc je voulais faire quelque chose là-dessus. C'est très difficile à romancer. Et puis, les pétroliers, enfin tous ceux qui tournent autour du pétrole, ne parlent pas. Alors tout le monde parle, hein, en règle générale. Les avocats, les policiers, les juges, tout le monde parle, pas les pétroliers. Mais ils ne parlent pas du tout. Et ils ne parlent pas du tout, y compris quand, par exemple, je suis allée voir le flop Prigent. Bon. En me disant, le flop Prigent, il a fait de la tôle, il n'est plus dans le pétrole. C'est pas vrai tout à fait, il est encore un peu avec les Africains. Bon, en tout cas, il n'est plus ce qu'il a été, etc. Il va peut-être parler. Non, pas du tout. Alors, ils sont extrêmement aimables, ils vous reçoivent et ils vous disent rien. C'est extraordinaire. J'ai vu aussi un des grands spécialistes de l'OPEP, rien. Et j'ai même trouvé le banquier qui me sert dans mon roman, parce que c'est celui qui a trouvé le système pour financer tout ça. Parce que les traders, au départ, c'est des gens qui n'ont rien. Ils vont devenir ces géants à partir de rien. Je veux dire, ce n'est pas des sociétés établies qui ont beaucoup d'argent, qui ont une couverture, qui ont des mines, qui ont des usines, ils n'ont rien. Bon. Et donc, il y a un banquier qui a inventé le système qui allait permettre à ces traders de proliférer, on va dire, et de changer le monde. Et ce banquier est un homme assez âgé, ça s'est donc passé en 73. Mais il vit encore et il est toujours à Genève. C'est lui qui a fait la fortune de Paris-Bas, Genève, qui est devenu cette très très grosse banque, qui est la plus grande banque de financement du trading, puisque vous avez dû suivre récemment qu'elle a payé une amende de 10 milliards de dollars. Elle l'a payé. Bon, donc si vous voulez, téléphone, tout, et il m'invite à déjeuner à Genève. Je me dis, là, j'ai gagné le gros lot. Alors, je me présente toujours comme auteur de romans noirs, hein, je veux dire, je ne me présente jamais comme je ne sais pas quoi, enfin, je dis les choses, j'envoie des livres que j'ai écrits avant, c'est tout à fait correct, hein, je veux dire, je ne triche pas du tout. Donc, il m'invite, j'y vais, et là, rien. Un déjeuner charmant et rien. Je pose, j'avais longuement préparé l'entretien, j'avais beaucoup de questions, j'ai cherché des angles d'attaque dans tous les sens et rien. Et à la fin, simplement, on se sépare. Bon, moi j'étais quand même dépitée. Et on se sépare et il me dit, vous savez madame, dans le pétrole, tous les hommes s'achètent. Bon, je ne sais pas ce qu'il entendait par là. Je ne sais pas s'il me disait, vous auriez dû m'acheter. Non, je ne crois pas. Mais bon, c'est la seule chose qu'il m'ait dit. Ce qui, pour moi, n'a pas été une surprise, à vrai dire, ni une information. Bon, donc, voilà, c'est un milieu qui rend le roman très difficile pour moi. Donc voilà, je nage et je vais bientôt finir. Mais dans l'ensemble, j'accorde beaucoup d'importance... aux rencontres, à l'oral, au croisement, voilà. Et savoir écrire, c'est savoir écouter. C'est savoir écouter parce que, si vous voulez, c'est la conviction, déjà, très important, la conviction que chaque personne, quelle qu'elle soit, a une histoire. Il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de gens anonymes. Tout le monde a une histoire. Il faut savoir l'écouter. Et savoir écouter, c'est compliqué. Parce que, dans un premier temps, les gens n'expriment pas... Savoir écouter, c'est aussi savoir faire raconter. Parce que, dans un premier temps, si vous voulez, les gens ne racontent pas facilement. Les gens, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont très souvent vous donner une espèce de version... passe-partout, toute faite, avec le langage habituel, j'ai eu cette expérience-là quand j'étais syndicaliste. Quand j'étais syndicaliste, si vous voulez, quand il y avait un très gros problème dans une boîte, que les gens commençaient à râler et à se mettre en grève, ou à protester sous une forme quelconque, la première forme de protestation, c'était « puis on n'est pas payé ». Bon. Et là, on disait, bon, attendez, on va prendre un tout petit peu de temps et on va commencer à discuter. Et on va discuter de ce que vous faites, de la façon dont vous le faites, de la façon dont se passent les jours, de la façon dont se passent les rapports à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et on découvrait très vite que derrière cette revendication passe-partout, on n'est pas assez payé, il y avait un paquet d'autres choses il y avait un paquet d'autres choses d'insatisfaction profonde qui avaient du mal à s'exprimer. Et donc, on avait un peu un rôle d'arriver à ce que les gens parviennent à exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Donc, si vous voulez, écouter, c'est ça aussi. C'est savoir faire raconter, faire dire. Mais écouter, c'est très très important. Si vous voulez raconter des histoires, il faut avoir... du respect et de l'estime pour les gens qui sont en face de vous, et il faut savoir les écouter. Donc, voilà, ça me paraît être... c'est plus difficile d'écouter que d'écrire.
Est-ce que vous les interviewez avec un dictaphone ?
Pas forcément. Pas forcément.
Faut tout se rappeler après.
Ah ben non, je prends des notes. Ah. Je suis, oui.
En les interviewant.
Oui, oui. Ah, je prends toujours des notes. Je demande évidemment si c'est possible, mais la plupart du temps, c'est, enfin, je n'ai jamais eu de refus. Alors que le dictaphone pose des problèmes. Hein. Tandis que les notes, si vous voulez, c'est pas pareil. C'est mon écriture, c'est moi qui écris. C'est pas compromettant des notes. Hein. Un dictaphone, c'est beaucoup plus compromettant. Mais je suis une manuelle de l'écriture. J'ai toujours écrit à la main. J'écris très facilement. Enfin, je prends des notes très facilement. Ça ne me pèse pas du tout. Et aujourd'hui, si vous voulez, mon premier jet est toujours à la main. Ensuite, je travaille sur ordinateur, mais mon premier jet est toujours à la main. C'est... J'ai l'imagination au bout des doigts.
Ça vous est difficile, cette écriture, à partir des notes ? Est-ce que c'est un travail ?
Ouais, c'est un travail, oui. C'est un travail assez... oui, c'est un travail important. C'est un travail important. C'est pas toujours un travail aussi important. En ce moment, je suis vraiment... sur le pétrole, je suis vraiment dans la panade. Mais c'est pas toujours aussi important, mais c'est toujours... Si vous voulez, le seul que j'ai écrit vraiment, facilement, presque du premier jet, c'est Madoff. Bon. Tous les autres m'ont demandé un travail important. J'ai un premier jet, donc, que j'écris manuellement. Ensuite, je tape sur ordinateur. Et là, le passage du premier jet à l'ordinateur, c'est déjà tout un travail de correction. Donc d'abord, oui, d'abord j'ai oublié. Avant d'écrire, j'ai un plan. Alors là, c'est pareil, tous les écrivains font pas pareil. Moi, j'ai un plan, j'ai une formation d'historienne. Je fonctionne toujours comme une historienne. J'ai un plan, je sais où je vais. J'ai ma scène d'ouverture et ma scène de fermeture, et même j'ai quelques scènes clés au milieu. Toujours, il y a des scènes que je peux écrire sans que ce soit dans l'ordre chronologique, parce que ce sont des scènes un peu clés dans le roman, des scènes tournantes. Bon, je les ai dans la tête tout à fait et sur le plan avant de commencer à écrire. Mais ensuite, si vous voulez, après le premier jet, quand je passe sur l'ordinateur, c'est déjà en fait une réécriture. C'est-à-dire que je corrige beaucoup, beaucoup de choses en tapant. Là, il y a, et c'est là que naît le style. Parce que il y a deux choses, si vous voulez, que je travaille en même temps. Il y a d'abord la recherche du mot juste. Bon. Le mot juste, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce que disait, c'est l'expression de Siménon qui disait « je cherche le mot matière ». Je trouve ça formidable parce que l'expression « mot matière » à elle seule dit exactement ce qu'elle veut dire. Des mots qui existent, qui pèsent, qui ont une masse, des mots qui sont lourds, que vous pouvez prendre en main, si vous voulez, en quelque sorte. Et il faut les trouver, ces mots-là. C'est vrai que Siménon a un talent. Quand il vous fait entrer dans une salle de restaurant, avec un vocabulaire très très simple, avec très très peu de mots, vous y êtes, vous la voyez. Bon, ça c'est... Le mot matière, trouver le mot juste. Ce qui veut dire, par exemple, pas de comparaison. La comparaison n'est pas raison. Bon, ça c'est en philo. Mais en écriture, si vous êtes obligé de recourir à la comparaison, c'est que vous n'avez pas trouvé le mot juste. Peu d'adjectifs. Bon, donc une écriture dépouillée. Ça, c'est la première... Et vous savez, la recherche du mot juste, c'est pas évident du tout. C'est compliqué, c'est bon. Deuxième travail, le rythme. Et le rythme, c'est aussi un travail assez considérable. Parce que il faut pas écrire tout le temps temps sur le même rythme. Moi, j'essaye de trouver un rythme qui est exactement approprié au sens que je veux faire passer. Il faut que le rythme aide à la sensation du lecteur. C'est un élément très important qui va permettre au lecteur d'éprouver, de vivre, ce qu'on disait sur LA Confidential, de vivre ce qu'on est en train de lui raconter. Il va le vivre pas seulement à travers l'histoire qu'on raconte, mais à travers la façon dont on la raconte, à travers le style qu'on arrive à trouver pour la raconter, qui va être d'ailleurs, en résonance avec un certain nombre de gens et pas en résonance avec d'autres. Ça, c'est obligatoire. Les sensibilités sont extrêmement différentes. C'est pas un problème, ça. Les gens aiment, aiment pas. Ça, c'est la liberté totale du lecteur. Moi, ce que je dis toujours, si vous voulez, c'est que le lecteur, c'est quand même 50% du livre. C'est-à-dire, un bon livre, c'est un bon lecteur. C'est le lecteur qui fait le bon livre. Donc la sensibilité du lecteur, elle est ce qu'elle est. Il y a des lecteurs avec lesquels on est en phase, d'autres avec lesquels on n'est pas en phase. Normal, tout à fait normal. Mais en tout cas, cherchez, si vous voulez, à travers le rythme, à faire vivre la sensation au lecteur. Ce qui veut dire un rythme évidemment variable, suivant la personne qui parle, suivant le moment de l'action, etc., etc. On va avoir un rythme plus apaisé pour une description de paysage. Les descriptions aussi, les descriptions. Moi, mon obsession, si vous voulez, c'est pas de digression. Bon. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est... Alors, j'ai un maître... Alors, vous allez rire parce que... j'ai un maître, c'est Balzac. J'ai un maître, c'est Balzac. Bon, pourquoi il y a de quoi rire? Parce que les descriptions chez Balzac sont interminables. Oui. Mais la description chez Balzac a une fonction fondamentale. Quand il finit sa description, commence la scène avec les personnages, et les personnages, vous les connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il a... Il a choisi son paysage, son habitation, son lieu, etc. Il les a choisis en fonction des personnages qui sont dedans et dont il va parler. Et il les fait vivre à travers la façon dont il décrit le paysage. Alors, c'est un art absolument extraordinaire. C'est un art qui ne passe absolument plus. Il faut faire la même chose en trois lignes. Bon, alors évidemment, on n'y arrive pas, mais en tout cas, j'essaye de reprendre ces règles de fonctionnement balzaciennes pour le choix des descriptions et des paysages, des villes, etc. J'essaye d'avoir des descriptions qui sont toujours en phase avec ce que le personnage, à ce moment-là, pense, etc., en interaction. Et je fais évidemment des descriptions infiniment plus courtes. On ne peut plus fonctionner comme Balzac. Les lecteurs ne sont plus les mêmes. Les lecteurs... j'ai des petits-fils, je peux vous dire qu'ils sont nourris à Tex Avery et aux jeux vidéo. Déjà, mon fils, j'arrivais pas à lui faire lire ça, mais alors, mes petits-enfants, c'est pas la peine d'essayer, j'essaierai pas. Je sais que peut-être ils y arriveront quand ils seront très âgés, voilà. Peut-être à ce moment-là, ils prendront le temps, mais avant, on peut pas. Donc, voilà, la recherche, c'est ça. C'est bien continuer à faire ce que faisaient les grands classiques, mais en trouvant un rythme qui est maintenant celui du cinéma et de la culture de l'image.
J'ai été trop longue.
Vous nous avez très très bien expliqué votre méthode de travail et la construction de vos livres. Vous parliez de des personnages. Donc on va parler de vos personnages de commissaire et commandant. Je voulais revenir sur le commissaire d'Aquin qui apparaît dans votre premier roman Sombre Sentier, que l'on retrouve dans les deux autres, À nos chevaux et Cope. Le commissaire d'Aquin, commissaire aux méthodes musclées, quand même, mais personnage que l'on a trouvé attachant, qui devient après secondaire dans les autres de vos romans, qui n'est plus personnage principal. Une question peut-être simple, pourquoi vous ne l'avez pas gardé, ce commissaire, comme font tant d'autres d'auteurs de polars? Voilà, c'est la première question. La deuxième, c'est à propos de Noria Ghozali, personnage que l'on a trouvé intéressant. Noria Ghozali, elle est commandante des RG, elle apparaît...
À la fin. Ah oui, vous voulez dire alors dans Bien Connu?
Oui.
D'accord.
Voilà.
Non, parce qu'elle apparaît dans Nos Fantastiques.
Voilà, alors elle apparaît dans Nos Fantastiques années fric, on la retrouve dans Bien Connu des services de police, où effectivement à la fin elle devient commandante des RG. Noria Ghozali fuit un contexte familial très difficile, où son désir de faire du théâtre dans sa famille, où les filles n'ont pas forcément le droit à la parole, n'est pas accepté. Elle se retrouve à la rue, après et on la retrouve plus tard. En train de regarder au Pôle emploi, on va dire, pour passer les concours dans la police, et on la retrouve commandante des RG. Sacré parcours.
Oui.
C'est une force de la nature, Noria Ghozali. Est-ce qu'on peut parler de résilience à son sujet? C'est une question que l'on a eu envie de vous poser, voilà, toutes les trois.
Alors, pendant très longtemps, pendant mes années... jusqu'aux années 80, je crois, quelque chose comme ça, la police a été une des branches professionnelles dans lesquelles il était le plus facile de grimper, où l'ascenseur social fonctionnait. On pouvait commencer gardien de la paix et finir commissaire. C'est fini. On y a mis bon ordre. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. On a créé l'école des commissaires, et maintenant, pour être commissaire, il faut avoir au moins une licence de droit et passer le concours d'entrée à l'école des commissaires. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des commissaires de 26 ans, qui n'ont jamais été policiers, et qui dirigent des commissariats. Bon. C'est pas forcément une très bonne chose, et quand en plus on les met dans le 93, alors là, bon. mais c'est un vrai problème. Donc le parcours de Noria Ghozali est un parcours possible, était possible. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, et je pense que c'est un des aspects de la sclérose de notre société française. C'était une profession vraiment. La police que j'ai connue, je vous dis, dans les années 60-70, était une police dans laquelle la promotion interne fonctionnait à plein régime. À plein régime. On envisageait mal un commissaire de police qui n'était pas passé par la base. Tous ces hommes dont vous avez peut-être entendu parler, Broussard, les autres, ils avaient tous commencé policiers en tenue. Donc, Ghozali, c'est possible. Oui. Ça ne l'est peut-être plus maintenant, mais à l'époque où je la situe, c'est possible.
Et le commissaire d'Aquin?
Alors, le commissaire d'Aquin, bon. Alors, si vous voulez, ce qui fait la qualité d'un roman, ce sont les personnages. Comment on va arriver à faire vivre la situation au lecteur? Et comment d'ailleurs, parce que ça c'est aussi...
Oh pardon.
Ça va? c'est aussi un peu, si vous voulez, l'auteur quand il écrit, il ne pense pas nécessairement au lecteur. Ça je crois qu'il faut quand même le dire. C'est quand même une activité extrêmement solitaire et un peu névrotique, même assez névrotique. Bon, mais en tout cas, l'auteur, il essaye de vivre son histoire et il la vit à travers ses personnages. Donc le lecteur, lui, il va essayer de la vivre aussi, il la vivra aussi à travers les personnages. Les personnages, c'est donc la chose la plus importante d'un roman. Il y a la structure. Mon idée, c'est qu'il faut que cette structure soit impeccable et se tienne très très bien pour que le lecteur ne décroche pas, mais ce qui fait la qualité d'un roman, ça n'est pas la structure, ce sont les personnages et le style. Donc, si vous voulez, importance des personnages. L'idée, voilà comment est né le personnage du commissaire d'Aquin. J'étais donc syndicaliste au moment de cette bataille dans le sentier pour la régularisation. C'était à l'époque, en 1980, toute la branche de la confection parisienne était en travail clandestin, absolument toute la branche. Et les travailleurs clandestins à l'époque étaient des Turcs. Ça change beaucoup suivant les moments, hein. Aujourd'hui, c'est des Chinois. Mais à l'époque, c'était des Turcs. Et dans cette bataille qui s'est passée, qui a duré 6 mois, j'ai vécu une expérience tout à fait extraordinaire parce que, si vous voulez, ce milieu de la confection, des ateliers, hein, c'était pas les magasins, c'était les ateliers, là où les vêtements se fabriquaient. ce milieu... ce milieu était exclusivement masculin. Exclusivement masculin. Pas une femme. En 6 mois de temps, j'ai tourné dans des centaines d'ateliers, parce que c'était des tout petits ateliers. J'en ai vu un seul où il y avait des femmes. C'était en plus des Françaises. Donc, pas de femmes. Et je me trouvais dans une situation tout à fait exceptionnelle, parce que moi, je n'étais pas une femme, j'étais le syndicat. Et ces travailleurs n'avaient aucun papier, le seul papier qu'ils avaient était leur carte syndicale. Et quand ils étaient arrêtés dans la rue par des policiers, ils montraient leur carte syndicale, et comme on était en train de négocier avec Stoléru, que tout le monde le savait dans le quartier, on les laissait passer à ce moment-là. Ils n'étaient pas arrêtés. Et quand il y avait des bagarres ou des choses comme ça, qu'ils étaient arrêtés dans un commissariat, le syndicat débarquait et on les sortait de là. Le syndicat, c'était en plus moi et une avocate qui était aussi une femme et une autre permanente syndicale qui était aussi une femme. C'était assez curieux cette situation. Mais on était... le syndicat. C'est-à-dire que quand ça c'était une expérience unique pour une femme. Quand je débarquais dans un atelier où il n'y avait que des hommes, l'atmosphère restait celle d'hommes entre eux. Ils n'étaient pas perturbés par ma présence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était, imaginez, le vestiaire après le match de rugby. Bon, une femme entre, tout change. Bon, ben là, j'entrais, ça ne changeait pas. Et donc, j'ai eu cette expérience tout à fait exceptionnelle pour une femme de vivre cette situation d'hommes entre eux. Alors, c'était atelier, lutte, bagarre, etc. C'était un contexte très particulier. Mais j'ai été vraiment frappée par cette ambiance d'hommes entre eux, ils s'aiment. Voilà. C'est des hommes qui s'aiment. C'est pas du tout que ça veut pas dire du tout qu'ils avaient tous des rapports homosexuels entre eux, pas du tout. Mais ils s'aiment, ils sont bien entre eux, quoi. Et le commissaire, il est né de là. Le commissaire, il donne un corps, il donne une vie, il donne une voix à cette atmosphère d'hommes entre eux, qui est à la fois très violente. Par exemple, c'est quand même moi la seule fois où j'ai été menacée avec un pistolet dans toute ma vie. c'était absolument rare et je suis tout à fait persuadée que le pistolet n'était pas chargé. Mais par contre, ce qui était assez fréquent, c'est que il y avait très souvent des altercations puisque tout le monde était clandestin. Il n'y avait aucune fiche de paye. Donc vous pensez bien que les désaccords sur l'argent que l'on devait à l'un ou à l'autre étaient considérables et très très fréquents. Bon, alors, on commence à se disputer. Tu me donnes 100, tu me dois 150. Jamais je te dois 150, puisque c'est comme ça, je t'en donne que 80, etc. Bon, et il arrivait extrêmement fréquemment, mais enfin, extrêmement, il faut l'enlever, c'est exagéré. Mais il arrivait fréquemment qu'on ramasse un couteau ou un ciseau ou un cutter sur la table de découpe et qu'on échange quelques coups réels. Alors on partait à l'hôpital, on emmenait les deux à l'hôpital où ils se faisaient recoudre et ils revenaient continuer la discussion. C'était à la fois violent et, une forme de chaleureux, de très chaleureux entre hommes. Bon, c'était un milieu complètement hors la loi, mais en même temps où il y avait des règles qui étaient respectées, des règles qui n'étaient pas écrites, mais qui étaient tout à fait respectées. Par exemple, enfin bon... je ne peux pas développer les exemples. Ça va horrifier tout le monde. Mais... non, mais il y avait par exemple, si vous voulez, il n'y avait aucune forme de chômage, rien du tout, puisque les travailleurs n'étaient pas déclarés, aucune forme de sécurité sociale, enfin rien de tout ça. Quand un atelier faisait faillite, le premier qui arrivait à mettre la main sur les machines les gardait. Et il y avait un marché noir parallèle des machines usagées, enfin usagées, oui, enfin des machines d'occasion, et les ouvriers se faisaient leur chômage sur les machines. Bon, voilà, c'était... Et aucun patron n'aurait porté plainte pour ça. C'était une règle. Le premier qui mettait la main dessus les gardait. Donc, la question était de savoir qui allait être le plus rapide. Voilà. Et ça pouvait être le patron, ça pouvait être les ouvriers. Si c'était les ouvriers, le patron portait pas plainte. C'était comme ça. Voilà. Donc, ce mélange, si vous voulez, ce mélange, c'est ce que j'ai essayé de rendre dans le personnage de Daquin. Alors, pourquoi je n'en ai pas fait un usage abusif? Bon, d'abord, quand j'ai écrit mon premier roman, je ne savais pas du tout si j'en écrirais d'autres. Ensuite, comme il a été publié, l'éditeur m'a dit qu'il fallait absolument continuer, et c'est l'éditeur qui m'a dit qu'il fallait que je continue avec les mêmes. Alors, moi, comme je suis universitaire et assez disciplinée, puisqu'on m'avait dit ça, j'ai continué, je ne pense pas que c'était une très très bonne idée. Parce que justement, il est l'émanation du sentier et il est, à mon avis, peu transplantable. Alors, j'en ai fait donc deux. Et puis, comme je panadais complètement sur le pétrole, j'ai repris Daquin.
Je me mettais en haleine.
Pour me secourir. Donc, je suis en train d'écrire. Alors, ça se passe en 73. C'est donc 7 ans avant Sombre Sentier. Il a 27 ans. Il sort de l'école. Et je me dis, comment devient-on Daquin ? Voilà.
Merci. Merci. Vous venez donc de nous parler de l'ambiance très fraternelle qui pouvait exister dans ces milieux d'hommes.
Oui.
Ce qu'on a noté aussi au travers de votre œuvre, c'est l'image et la place des femmes, un peu particulière. Il y a soit des femmes de pouvoir, assez froides, glaciales, soit des prostituées, call girls de luxe, au sort peu enviable. Il y a un personnage néanmoins, Rolande, dans Lorraine Connexion, qui a une vie très très difficile, mais qui fait un beau clin d'œil à la fin et qui s'en sort. Dans vos romans, il n'y a pas de place pour les personnages banals du quotidien. Il n'y a pas de mère aimante,
Ah non, c'est vrai.
Bon, voilà, enfin, les rapports entre les personnages au sein de la famille.
Je ne m'en suis jamais rendu compte.
Ah, voilà. Des relations de travail, tout. Enfin, c'est très dur. Il n'y a pas de place pour la tendresse, pour l'amitié.
Ah, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.
Bon. Et la sexualité, il est débridée, bestiale parfois, souvent violente. Bon, on l'a noté comme ça, c'est un avis. Bon,
voilà. C'est un avis.
Et c'est un avis, hein. Probablement très personnel, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, donc sur l'image et la place des femmes et rapport sexualité-pouvoir?
Oui, c'était surtout le rapport sexualité.
Alors, voilà. Écoutez, là, c'est quand même un choc. Je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a pas de mère de famille aimante dans mes romans. Alors, il n'y en a pas dans celui que je suis en train d'écrire.
Oui, mais voilà, enfin, bon. c'est un ressenti qu'on a eu. On vous livre
mais
un
écoutez,
peu de
béton. C'est très intéressant, voilà. Parce que je ne m'en suis jamais aperçue.
Bon.
Alors, voilà, je vais y réfléchir. Alors, non, pas de tendresse, c'est pas tout à fait vrai. Un personnage comme Agathe, qui est dans À nos chevaux, par exemple, et douce, tendre, etc. Un personnage comme Anna Béric dans Sombre Sentier, qui est... Alors, je vais dire, oui, j'ai eu des problèmes, des graves problèmes avec les personnages féminins. J'ai mieux senti tout de suite les personnages masculins. Sombre Sentier, au départ, quand j'ai construit mon histoire, je voulais qu'elle tourne l'histoire autour du couple d'Aquin et le Turc et le couple Meillan, le commissaire de quartier, et Anna Béric. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je n'arrivais pas à écrire Anna Béric. Je n'y arrivais pas, voilà. Les mots venaient pas, je la sentais mal. Je m'en suis tirée, comme l'histoire, elle a quand même un rôle très important dans l'histoire, parce que, en plus, dans le sentier, c'est une femme qui avait le rôle que Anna Béric a. C'est-à-dire que, dans le sentier à l'époque, en 80, je pense que la situation est tout à fait différente maintenant, mais à l'époque, si vous voulez, il y avait un système qui était très au point. Quand vous déclarez une nouvelle société et que vous commencez à travailler, vous avez 3 mois de latence avant d'avoir à payer les droits sociaux, les cotisations sociales, pardon, pas les droits sociaux, les cotisations sociales. Le personnage qui m'a servi de modèle pour Anna Béric, qui ne s'appelait pas Anna Béric, bien sûr, avait monté le système de rotation qui permettait d'avoir tout le temps 3 mois, 3 mois, 3 mois, et de changer continuellement de raison sociale. Ce qui permettait de ne jamais payer de cotisations sociales. Bon, donc, elle avait dans le sentier un rôle extrêmement important. Et j'avais bien l'intention de la mettre dans mon roman. Bon. Et je n'y arrivais pas. Alors, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Je veux dire, je sentais bien que ça venait pas, que c'était médiocre, etc. Donc, je m'en suis tirée par une pirouette. C'est-à-dire que je l'ai mise en fuite. Bon. Et elle se réfugie à Istanbul. Bon. Et il y a une scène avec Anna Béric, quand elle revient, qui est en fait une scène avec Daquin.
Oui.
Bon, c'est-à-dire que, voilà, c'est Daquin qui a le rôle dominant dans la scène. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les personnages féminins, je ne sais pas pourquoi, et je ne cherche pas trop à savoir. Parce que, si vous voulez, il y a quand même, dans l'écriture, contrairement à l'histoire, justement, contrairement au travail d'un historien, il y a dans l'écriture romanesque une part d'incontrôlé qu'à mon avis, il ne faut pas chercher trop à mettre au jour. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal. J'ai le sentiment qu'au fur et à mesure, j'arrive quand même mieux à faire des personnages féminins et à mieux les cerner et à avoir des personnages féminins plus intéressants. Noria Ghozali, dans nos fantastiques années fric, elle est complètement débutante. Et elle n'est pas encore une femme de pouvoir. Et Rolande n'est pas du tout une femme de pouvoir. Bon, alors c'est vrai que bon, alors les prostituées, sincèrement, ça m'intéresse pas trop de les. Enfin, c'est pas des caractères qui me fascinent du tout, du tout, du tout. Il y a juste une mère maquerelle que j'ai rencontrée quand elle avait quitté le métier, ce qui permet quand même, ce qui facilite les relations, parce que j'ai pas d'estime pour la prostitution. Mais elle était extraordinaire parce qu'elle tenait un restaurant au bord de la mer, un très 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 bon restaurant de poissons. Bon, c'est elle, quand je peins une mère maquerelle, c'est toujours à elle que je pense. Elle était ample, très ample, et elle portait tous ses bijoux sur elle. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle faisait pas confiance aux banques, elle faisait pas confiance non plus aux coffres. Et en particulier, elle avait une paire de lunettes extraordinaires avec des montures en diamant. Et elle avait sous le bras son petit chien, là, Chihuahua. Donc, elle était inouïe, elle s'appelait Mado. Toutes mes mères maquerelles s'appellent Mado. C'est toujours à elle que je pense quand j'écris. Mais elle avait un restaurant. Elle s'était reconvertie magnifiquement. Elle faisait une kermesse aux poissons au mois de novembre où il y avait 11 services. Et sur le menu, à la fin, il y avait marqué: la maison offre le café. Bon, enfin bref. Donc, mère maquerelle, j'ai pas une tendresse particulière pour le métier. Qu'est-ce que c'était? Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, les femmes de pouvoir, oui, ok, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes de pouvoir. Hein. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Alors, les problèmes de sexualité, oui, alors de façon très surprenante, mais totalement incontestable, les hommes de pouvoir ont besoin d'être perpétuellement rassurés sur leur capacité masculine. Alors, je n'invente rien. Là-dessus, je n'invente rien. Je ne sais pas pourquoi, moi. Je raconte, mais je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'est profondément étranger, mais c'est comme ça. Et quant à l'utilisation de la prostitution pour les marchés économiques, c'est incontestable. Voilà, il y a des branches entières où ça fonctionne. Le pétrole, l'armement, c'est comme ça. Quand on signe un contrat, on fait ça avec des call girls. C'est comme ça. Alors bon, il y a des dérives. Notre ami Strauss-Kahn en est un exemple. Mais beaucoup le font. Et justement, j'avais une discussion, je ne sais plus très bien quand, dans la semaine qui vient de s'écouler, parce que j'ai beaucoup navigué, mais un entrepreneur de l'armement me disait que oui, c'est un poste budgétaire, officiel. Donc quand on dit... c'est un poste budgétaire officiel. Donc, franchement, sincèrement, là-dessus, sur le pouvoir et la sexualité, je suis incapable de donner des explications. J'essaye simplement de raconter comment ça se passe. Voilà. Et j'ai autant d'hommes de pouvoir que de femmes de pouvoir. Mais j'ai peut-être un peu moins de femmes non-pouvoir que d'hommes non-pouvoir. Et je n'ai pas de mère. Aucune mère, ce qui est ahurissant.
Voilà.
Alors, vous n'avez pas de mère, mais par contre, on va revenir sur une expérience littéraire, le livre que vous avez écrit à quatre mains avec Doha. Et là, il y a un père aimant, et puis des jeunes gens qui sont un peu plus... on rentre un peu plus dans leur intimité, il y a plus de souplesse dans les relations, elles paraissent en tous les cas moins dures. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Alors, à la fois de cette expérience d'écriture, peut-être comment les écritures se sont influencées, et puis peut-être quelque chose de personnel dans votre écriture sur des personnages qui seraient un petit peu plus, avec des caractères un petit peu plus doux, au contour un peu moins abrupt.
Oui, c'est des personnages de victimes.
Oui,
c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, très peu de victimes dans mes romans. Sur l'expérience d'écriture, ça s'est très très bien passé et c'était passionnant. Et je crois que ça dit beaucoup de choses sur ce que c'est que le roman. Deoa n'est pas du tout de ma génération. Il est de l'âge de mon fils. Et il vient d'un univers radicalement différent. Il a des opinions radicalement différentes. Par contre, nous avons, sur le plan littéraire, beaucoup de goûts communs. Et nous aimons les mêmes auteurs, nous aimons les mêmes séries télévisées, les mêmes films. On a beaucoup de goûts communs. On a un goût pour, je ne sais pas si ça s'appelle du réalisme, parce que je ne sais pas si c'est... Non. Mais en tout cas, la littérature du réel, on va dire. Hein. Pour la littérature du réel, pour nos références absolues, c'est effectivement Elroy, c'est Sur Écoute comme série américaine, etc. Bien. Et on a aussi une estime réciproque pour le travail de l'un et de l'autre, ce qui est évidemment tout à fait indispensable quand on travaille à deux. Alors au début, on s'était engagé à essayer de faire une série télévisée, ce qui est beaucoup moins impliquant qu'un roman. Alors, on a fait un projet de série télévisée qui, dans un premier temps, a été accepté par Canal+. On s'est donc mis au travail et on a fait un texte long qui n'était pas dialogué, rien du tout, qui n'était pas détaillé, mais qui était un récit de l'histoire sur 8 épisodes. Et là, Canal a refusé. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, on s'est dit, on a déjà fait beaucoup de travail de documentation, en particulier sur le nucléaire et tout ça, on ne va pas laisser tomber, on va en faire un roman. Et c'est comme ça qu'on en est venu à écrire à quatre mains, ce qui n'était pas le projet de départ. Parce que écrire un scénario, je vous assure que c'est très différent et beaucoup moins impliquant. Bon. Alors après, on ne savait pas comment s'y prendre pour écrire à quatre mains. Alors, les expériences de d'autres personnes vivantes à qui on a demandé ne nous ont pas beaucoup intéressés. Par exemple, on a des amis italiens qui ont écrit à quatre mains. C'était l'un écrivait je et l'autre il. Et les chapitres se succédaient. Bon, ça ne nous a pas plu du tout. Alors nous, on a eu une méthode, je crois, assez particulière. Comme on avait, vous savez, pour la télé, il faut faire la liste des personnages. On avait la liste de nos personnages et on avait déjà le plan de l'histoire. On s'est partagé les personnages en fonction des affinités et puis en fonction de ce qu'il fallait, quoi, moitié-moitié. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ce partage... on a commencé par le premier chapitre. On s'est partagé les scènes en fonction des personnages qu'on avait pris. Quand il y avait des personnages de l'un et de l'autre, on disait quel est le personnage dominant dans la scène, un tel, hop, c'est toi. Bon. Une fois qu'on avait fait le partage, on est parti chez nous et on a écrit nos scènes. Et puis, on est revenu et on les a échangées. Et on les a corrigées. Et on avait un accord qui était, on ne corrige pas les corrections. Alors, on accepte les corrections et on ne les corrige pas. Donc, vous voyez, il fallait un niveau de confiance quand même important. Bon, et on a avancé comme ça, chapitre par chapitre, jusqu'au bout. Et ça s'est super bien passé. Alors, moi, je dis que ça en dit beaucoup sur le roman, sur la façon dont on fait des romans, sur le fait que le roman n'est pas... Alors, vous avez utilisé le terme tout à fait au début de la présentation, dénonciation. Le roman n'est pas une dénonciation. Le roman raconte. Il raconte. Il désosse. Mais il dénonce pas. Il n'y a pas de dénonciation. Dans les personnages que je fais, il y a des bons, il y a des mauvais, mais il n'y a pas absolument bon et il n'y a pas absolument mauvais. Il y a très très peu de personnages qui sont complètement mauvais. J'essaye que pour tous les personnages, il y ait des éléments à travers lesquels vous vous dites « Ouais, ça me parle, ça, il y a une résonance chez moi. » Ça, c'est bon. Je crois qu'il n'y a que dans Sombre Sentier, par exemple, il y a un personnage qui est quand même absolument abominable et qui est un sadique épouvantable. Et bon, d'abord, c'était mon premier roman. Ensuite, j'avais moins d'expérience. Et ensuite, je l'ai quand même fait amateur éperdu de poésie perse. Bon, parce qu'il fallait quand même... dans le personnage du patron collabo dans Le Corps Noir, je l'ai fait très bon père de famille, attentif à sa famille, à ses enfants. J'en ai pas fait un personnage abominable. J'aime pas faire des personnages abominables. Je trouve que les... Bon, voilà. Donc, si vous voulez, on avait tous les deux le même souci d'essayer d'aller au plus profond possible, de décortiquer, voilà. Et malgré le fait que nous n'étions... que si on avait fait un roman politique, on aurait été absolument en désaccord. Eh bien, on n'a pas eu du tout de débat en écrivant notre roman. Pas eu de débat, sauf littéraire. C'est-à-dire, l'emploi de tel mot, non, ça ne me paraît pas convenir. Quand on corrigeait, si vous voulez, si la correction posait, je dis, on ne corrige pas des corrections, mais si la correction posait des problèmes à l'autre, on relisait évidemment ce qui avait été fait. S'il posait un problème, on en discutait évidemment. Donc là, on a eu des discussions sur l'emploi de tel ou tel mot, sur le choix de tel et tel acte, de tel et tel geste. Là-dessus, on a eu des débats. Mais sur le fond, on n'a pas eu de débat. Le sens du roman, c'est le lecteur qui le donne. C'est vous, les lecteurs, qui l'interprétez. Nous, on essaye d'aller au plus profond, au plus juste, à ce qui colle le mieux avec ce que l'on comprend. Et c'est vous. Je reprends l'exemple d'Elroy. Elroy, j'ai rien de commun avec cet homme, absolument rien. Je lis son roman, je suis sûre que c'est pas du tout que si lui le lisait, c'est pas du tout comme ça qu'il le lirait. Je veux dire, par exemple, moi je lis dans L.A. Confidential une critique de la société américaine extrêmement appuyée. Qu'est-ce que lui dit? Lui dit, ces hommes sont mauvais, c'est eux qui ont fait l'Amérique. C'est-à-dire que lui fait une, entre guillemets, apologie de ces hommes mauvais. Entre guillemets, l'apologie, hein, c'est plus nuancé que ça. Mais c'est pour faire comprendre. Voilà, on lit comme on veut. C'est le lecteur qui donne le sens de l'ouvrage. Alors, ça dépend. Je veux dire, après, vous avez des livres qui sont des tracts, qui sont des polémiques, qui sont effectivement des dénonciations. Là, c'est l'auteur qui impose son sens. Mais le vrai roman, le roman très très riche, reprenons Balzac. Balzac est royaliste. C'est un homme qui fait un portrait admirable de la bourgeoisie naissante. Admirable. Et quand on le lit, si on ne sait pas qu'il est royaliste, bon, ça n'apparaît pas. Il ne fait pas de propagande pour le parti royaliste. Il fait une description extraordinairement riche de la société à son époque. Et c'est aussi, tout à fait entre nous, le père du roman noir. Hein. Un petit peu en avance, mais c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Voilà, donc, voilà comment ça s'est passé avec Dewa.
Merci beaucoup. Peut-être avez-vous des questions ? Oui ?
Alors, j'ai une question sur votre rapport à la gastronomie.
Ah !
C'est le merveilleux dictionnaire de la cuisine française.
Mais j'avais entendu.
Ma question interrogeait votre rapport à la gastronomie. Et vous citez notamment dans quelques romans toujours les mêmes restaurants. On peut croire que là, il ne s'agit pas de restaurants fréquentés par les personnages, mais plutôt par l'écrivain.
C'est vrai.
Voilà. Bon, c'est vrai, je pense que manger occupe une place très importante, la gastronomie occupe une place très importante dans ma vie. J'ose pas le dire, mais d'autant plus important que c'est pas moi qui fais la cuisine. Bon, enfin, non, c'est très important. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est très important. Voilà. Mes personnages, c'est vrai, mes personnages aiment manger. C'est un acte d'amour. Hein. Manger, c'est un acte d'amour. On mange pas n'importe quoi avec n'importe qui.
Absolument.
Et dans le roman que je suis en train d'écrire, justement, Daquin se trompe. La première fois, il fait une ratatouille et ça correspond pas du tout à la personne qu'il reçoit. Mais c'est parce qu'il la connaissait pas. Voilà. C'est très important. C'est très très important. C'est un moment d'extraordinaire sociabilité. Chaleur, on est dans de bonnes dispositions, on est heureux quand on mange bien. Et donc, on est bien plus ouvert sur l'autre. Enfin voilà, ça me paraît très important. Et donc, c'est vrai. Et les restaurants que je cite. Alors, je vais même vous raconter une anecdote, c'est que quand j'ai écrit COP, on avait à ce moment-là une chance extraordinaire. J'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Et on avait une chance extraordinaire. C'est que c'était la période où Fréchon, qui est maintenant au Bristol, 3 étoiles, et des prix que je ne peux plus me permettre. Mais à ce moment-là, il était débutant. Et il avait un petit restaurant dans le 19e, pas loin de chez nous. Où il faisait une cuisine miraculeuse. Alors, beaucoup plus simple que ce qu'il fait maintenant, évidemment, mais miraculeuse, absolument miraculeuse. On y allait presque une fois par semaine. Bon, on en a vraiment bien, bien profité. Et c'était d'ailleurs assez drôle parce que, comme le 19e est un arrondissement qui n'est pas du tout prisé, les guides gastronomiques n'en parlaient absolument pas. Et donc, ça nous a permis d'en profiter pendant plusieurs années avant que quelqu'un découvre et l'achète pour faire venir au Bristol, qui à l'époque n'avait plus d'étoiles, donc qui avait besoin de et il l'a fait monter à 3 étoiles. Bon, donc dans ce restaurant, on avait nos habitudes et on était bien heureux d'avoir nos habitudes. Et là-dessus, donc évidemment, dans COP, j'ai envie de faire une scène qui se passe chez lui. Alors je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai un personnage, COP c'est avec Dakin, alors je lui ai dit, bon, je ne lui ai pas dit il est homosexuel, etc., parce que je ne sais pas du tout comment il l'aurait pris, on était en 95, quelque chose comme ça, bon. Donc je ne savais pas du tout comment il l'aurait pris, je ne suis pas allée jusque-là. Mais je lui dis, voilà, il est grand, il est très baraqué, il est joueur de rugby et commissaire de police. Il a, je ne sais plus quel âge il avait, enfin bref, 45 ans, je crois, je donne l'âge exact et tout. Et il invite à déjeuner une femme d'origine turque, rousse, et je raconte le personnage de Yıldız. Qu'est-ce que vous leur faites? On était au printemps. Qu'est-ce que vous leur faites comme menu? Et c'est lui qui m'a fait le menu, qui m'a fait les vins, voilà. Et donc c'est un menu de fraîchons dans COP, en fonction des personnages.
D'autres questions? Avant de conclure,
moi, je voudrais
allez-y.
Je voulais savoir, comme vous parlez, que ce sont des faits réels qui vous inspirent.
Oui.
Donc, est-ce que vous avez quand même cette expérience qui arrive à beaucoup d'écrivains, que le personnage échappe, il se met à avoir une vie totalement inattendue? Parce que vous, il y a un plan, vous savez où vous allez. Donc, le personnage ne peut pas vous échapper.
Si, alors, je travaille à partir de faits réels, mais je les remanie beaucoup quand même. Hein. Je fais pas, c'est pas du reportage, hein. c'est très très remanié. Oui, les personnages, dans une large mesure, m'échappent. C'est même, si vous voulez, voilà, je vais vous expliquer comment ils apparaissent. Je fais donc beaucoup de documentation, je rencontre beaucoup de monde, je discute beaucoup, et c'est au fur et à mesure je réfléchis à la structure du récit, à ce que je peux bien faire comme structure du récit, mais je réfléchis pas trop au personnage. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a une part, on ne sait pas trop comment ça se passe, hein. Ça se passe dans l'imaginaire, et si vous voulez, c'est comme si, vous voyez, il y avait des espèces de vapeurs qui sortaient de toute cette masse de documents. C'est les personnages, c'est la chair, c'est les situations qui prennent en chair, qui deviennent chair. C'est toute cette documentation qui produisent des personnages et qui les produisent de façon relativement incontrôlée. Relativement incontrôlé. Et en fait, c'est quand ces personnages commencent à me parler que je me dis que c'est le moment de me mettre à écrire. Il m'arrive des bribes de dialogue. Tout d'un coup, il y a un gars qui se met à me parler. Et là, je réponds. je le laisse pas tomber. Et ça dialogue. Et là, je me dis, voilà, ça commence bien. C'est pour ça que j'ai eu tant de mal sur le pétrole, parce que il y a personne qui pose.
Il va sortir quand ce livre?
En mars.
En mars.
Et donc, si vous voulez, oui, il y a une part, il y a une grande part, je crois, d'imaginaire incontrôlé dans les personnages, pas dans l'histoire, pas du tout. Mais dans les personnages, oui. Alors, ça fait que, au cours de l'histoire, on est amené à beaucoup retravailler. Beaucoup retravailler, parce que, au fur et à mesure qu'on écrit, comme on approfondit en écrivant, eh bien, au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui viennent, il y a d'autres réactions qui viennent. Et si vous êtes déjà à la moitié et qu'il y a des choses qui apparaissent à la moitié, ça veut dire qu'il faut remonter toute la partie précédente pour réajuster. C'est un travail de réajustement continuel pendant toute la période de l'écriture. Et voilà, j'ai répondu là.
Je trouve que vous travaillez comme Zola. Qui faisait des carnets d'enquête.
Ouais. Mais oui.
Vous êtes le Zola actuel.
Ouais.
Voilà, un bon compliment. Alors, on me fait signe qu'il faut s'arrêter. C'est trop court. En tous les cas, on vous remercie de nous avoir fait partager votre expérience très riche d'auteur et engagé. Je crois que ça, c'est vraiment un mot important. C'est aussi, on aurait bien aimé parler de cet engagement aussi des auteurs français de manière plus générale dans la littérature. Catherine avait relevé un édito du magazine littéraire, il me semble, qui regrette que les auteurs ne soient pas autant engagés. C'est pas votre cas. On aurait pu aussi vous interroger sur cette question. On aurait pu aussi parler de L'Évasion, qui est vraiment un très beau livre et qui est un petit peu aussi différent des autres, qui nous paraissait un peu plus intime. Dans votre travail aussi d'auteur, et puis qui parlait, comme vous l'avez évoqué, de l'Italie. Qui paraît être un lieu important. Des livres de Dominique Manotti sont à vendre. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps pour les signer, pour les dédicacer, pour les personnes qui le souhaitent.
Ah ben, bien sûr. Mais moi, je vous remercie d'être venu.
Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire?
Est-ce que vous voulez le mot de la fin?
Non.
Merci à tous.
Merci en tout cas.
J'ai tenu jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout.
Merci beaucoup.
J'avais peur de ne pas tenir.
Ah oui,
Je vais reprendre du micro. Je vous ai très bien.